Vous savez, c'est comme pour une compétition. Si on pense à la demi-finale ou à la finale avant d'avoir joué le premier match de poule, c'est généralement comme ça qu'on rate celui-ci. Les Françaises et les Français m'ont donné une mission. Ils me l'ont donné pour 5 ans. Je l'ai déjà dit, moi je le ferai jusqu'au dernier quart d'heure. Si je me pose la question maintenant, ça veut dire que je me mets en situation de ne plus faire ce travail dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est pour ça que je l'écarte, je comprends votre question et...
On attend les arrêts de jeu.
Et oui, on attend le bon moment. Le bon moment.
Emmanuel Macron, très probablement candidat, répondra à 1h30 durant aux questions de TF1 ce soir en prime time. Les candidats à la présidentielle grincent. Quand le temps de parole de l'actuel chef de l'État sera-t-il enfin décompté? L'interview diffusée ce soir a été enregistrée 4 jours avant sa diffusion. Du jamais vu, nous semble-t-il, dans l'histoire de la Ve République, depuis que le général de Gaulle se résigna à faire enfin campagne à la télévision en 1964. Alors pourquoi priver les Français de cette épreuve de vérité que constitue le direct? Pourquoi épargner au président cette difficulté? Ces questions que soulève le format choisi par TF1 interviennent dans un climat où plus que jamais les politiques s'amusent à disqualifier la fonction des journalistes et où leur parole ne fait plus recette.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
À 116 jours du premier tour de l'élection présidentielle, entretien exceptionnel et exclusif d'Emmanuel Macron depuis l'Élysée face à Audrey Crespo-Mara et Darius Rochebain. Le président de la République répondra aux questions d'actualité que se posent tous les Français. Et pour la première fois, il reviendra sans détour sur les événements qui ont marqué son quinquennat.
Bonjour Thierry Tulier.
Bonjour.
Vous êtes le grand patron de l'information de TF1 et LCI. Évidemment, vous avez orchestré ce format très particulier dont on va discuter, qui va diffuser ce soir. Où va la France? Point d'interrogation. À partir de 21h sur TF1. D'abord, première question, CSA. Valérie Pécresse, candidate à la présidentielle, a saisi le CSA sur cette question du temps de parole. Marine Le Pen en a parlé également. Yannick Jadot en a parlé également. Tout le monde pointant l'inéquité. On en est où?
Alors, à ma connaissance, et du point de vue du CSA, pas grand-chose. C'est normal que, j'allais dire, les candidats ou les formations politiques aient saisi le CSA, ça relève de leur décision. En revanche, vous dites, le temps de parole n'est pas comptabilisé. Le temps de parole du président de la République est comptabilisé, et ce, depuis 2017. Puisqu'il y a une part de débat régalien, et il y a une part de politique nationale dans chaque intervention du président de la République. Et donc le CSA va appliquer cette règle. Et la règle du temps de parole candidat, dans le cas de l'élection présidentielle, commence à partir du 3 janvier, pas avant. Donc, il n'est pas tout à fait exact de dire que l'émission ne va pas être du tout comptabilisée en termes de temps de parole pour le président de la République. Ça va être le cas. Parce que, notamment, il parle beaucoup de politique nationale dans cette émission.
C'est ça. Mais on peut rappeler quand même que le CSA n'avait pas hésité à décompter le temps de parole d'Éric Zemmour comme candidat, alors qu'il ne l'était pas encore déclaré, et ce à partir du 8 septembre, oui. De la première semaine de septembre.
Enfin, comme j'ai entendu dans le son que vous avez diffusé avec Emmanuel Macron, il reste président de la République jusqu'au dernier jour de son mandat. Éric Zemmour n'était pas président de la République, à ce que je sache, au moment où il faisait ses émissions sur CNews. Donc c'est, j'allais dire, faut pas forcément comparer ce qui me paraît pas tout à fait comparable, en effet.
Pas du direct, ce n'est pas du direct. Ça nous paraît, mais totalement historique, ça paraît même une sorte de rupture dans ces formats auxquels aujourd'hui nous sommes tous habitués, nous avons tous grandi avec, c'est-à-dire l'intervention d'un chef de l'État à la télévision interviewé par des journalistes. Hein, il s'agit
c'est
pas
important.
C'est pas une allocution, ça n'est pas une allocution, c'est une interview avec face à lui Darius Rochebain et Audrey Crespo-Mara, ni d'un président, ni d'un candidat. Ce n'est pas du direct, pourquoi?
Alors, première raison, très, très naturellement, c'est une question d'agenda, de disponibilité. Ça n'a pas été simple. Vous savez, c'est une émission à laquelle on pense avec Tristan Carnet, qui est le réalisateur, depuis plus d'un an et demi, en vérité. On a sans cesse renouvelé nos demandes et à chaque fois, ça a été repoussé, reporté pour cause d'actualité, notamment pandémie.
Agenda donc, de qui? Agenda d'Emmanuel Macron?
Bien sûr, bien sûr.
Il n'était pas disponible ce soir en direct.
Il n'était pas. En tout cas, c'était compliqué pour lui. Ça, faut l'interroger.
Et vous,
lui.
Ne pouviez pas bousculer vos programmes dimanche soir?
Non, on était. Pour la deuxième raison que je voulais vous indiquer, c'est pas une interview politique classique. C'est-à-dire que c'est pas des questions et des réponses, vous les verrez ce soir, il y a de la, ce qu'on appelle de la production et donc de la post-production. C'est-à-dire qu'en effet, vous avez des images, vous avez des sons, vous avez des photos, c'est une émission avec des écrans à l'Élysée. Bon, tout ça ne s'est jamais vraiment fait.
C'est ce qu'on appelle un show.
Manière.
Est-ce que vous préparez
non,
un grand spectacle
que vous verrez,
pour le président
non,
de la
parce
République.
Que vous verrez, regardez, prenez le temps de regarder, que toutes les questions ont été posées. Toutes. Et toutes les petites phrases qui ont, j'allais dire, scandé ce quinquennat ont été posées. Et qu'il nous semblait important d'avoir un temps, justement, donné, pas moins de 2 heures, pas très loin de 2 heures, mm-hmm. vous dites 1h30, ce sera un peu plus, sur TF1 pour pouvoir poser toutes ces questions et notamment évoquer deux grandes crises qui font de ce quinquennat quelque chose de très particulier, que ce soit celle des Gilets jaunes, la crise des Gilets jaunes, ou l'actuelle crise de la pandémie qui n'est pas terminée.
Ce que je veux dire, Thierry Tullier, c'est que le direct, on sait très bien ce que ça veut dire. On sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi des moments d'hésitation, des ratages, des moments où la langue fourche, des lapsus, des moments où on n'est pas bon. On n'est pas bon quand on est interviewé parce que des moments où on descend, des baisses de rythme, tout ça, c'est intéressant du point de vue politique.
Mais tout ça figurera parce que, de toute façon, ça a été globalement tourné dans les conditions du direct.
Même globalement,
si ça, a été,
ça veut dire quoi
ça a été resserré, forcément. Mais ces hésitations dont vous parlez, vous les verrez. Ces réponses, parfois des questions pas faciles, vous les verrez. Voilà,
on n'y a pas... Ça a y a été pas, resserré, y a pas... ça veut dire qu'il y a des coupes ?
Ah mais on est totalement transparent. Vous aurez une version, j'allais dire, qui rentre dans le cadre d'un prime sur TF1, qui permet d'ailleurs... soit dit en passant, d'avoir une deuxième partie de soirée et qui donne la parole précisément aux oppositions. Et si on ne l'avait pas fait, je pense qu'on ne l'aurait reproché. Et puis vous aurez une version allongée, notamment par exemple sur tout ce qui est politique étrangère, où c'est vrai qu'on a été plus, timide du côté de TF1 parce qu'on n'avait pas la place, sur LCI dans les prochaines 48 heures. Donc, vous aurez ces deux versions-là. Et au fond, vous aurez pas
et
loin...
Et la version sur LCI sera absolument sans coupe.
Elle sera...
Sans retouche,
elle
sans
sera,
coupe.
Elle sera largement sans coupe. Il y a des questions autour du Covid d'actualité qui commencent, très honnêtement, à dater. Mais pour le reste, ce sera sans coupe, en effet.
C'est ça. Parce qu'on voit bien ce qui peut être, comment dire, qui peut rendre un montage plus fluide pour la télévision et qui fait perdre tout l'intérêt, tout le sel, toute l'attention d'une interview politique.
Vous regarderez. Oui. Et vous me direz si ça fait perdre son sel et puis cette intention ou cette tension d'une interview politique, je ne crois pas.
Et en même temps, ça pose quand même vraiment une vraie question, hein, le fait de rompre avec le direct.
Bon, d'abord, je ne suis pas certain. Ouais. Que ce soit la première fois.
Ah bon ? Voilà.
Non, je ne suis pas certain. Mais
peut-être une interview sur Europe 1.
Et peut-être sur France 2, je veux pas m'avancer, mais je crois que ce n'est pas tout à fait inédit, d'une part. Et d'autre part, encore une fois, ce qui est inédit, c'est le format, c'est-à-dire la capacité que nous avons eue, et lui d'accepter, le président de la République, d'accepter des images, des illustrations. Vous savez, on illustre très peu le président de la République quand il est en fonction. Là, c'est le cas. Et donc, forcément, il y a un travail qui est fait de réalisation, de production, qui est beaucoup plus lourde qu'une simple interview politique classique.
Je reviens sur une interview que vous avez donnée récemment au Figaro, qui revenait sur la kyrielle d'annonces, vraiment clés, qui ont eu lieu dans le JT de 20h de Gilles Boulot, avec tous les noms de ceux qui s'y sont rendus, qui ont répondu à leurs questions. Et vous dites, on tient à ce format court et percutant de 5 à 6 minutes, centré sur des annonces, nous voulions éviter de faire des interviews vite poche de 20 minutes, là où toutes les questions sont posées, mais où on ne retient pas grand-chose. 20 minutes, c'est une interview vite poche en période électorale.
Ce que je veux dire, ouais. Là, je vous parlais d'une séquence particulière. Ouais. Lorsqu'il y a des annonces de candidature et que les programmes ne sont pas encore en cours de présentation. Dans la deuxième séquence, c'est-à-dire un peu plus tard, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de l'élection présidentielle, les formats vont s'allonger. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que l'ennemi mortel, en tout cas pour un journal de 20 heures, c'est de devoir poser toutes les questions, d'être exhaustif. On ne peut pas être exhaustif. Il faut choisir, c'est comme un sujet, il y a un angle. Et dans cet angle, quand on vient présenter sa candidature, la première des questions, c'est pourquoi vous êtes candidat. Voilà, au nom de quoi vous êtes candidat. Au-delà, si on commence à vouloir égrener tous les programmes, on sort du cadre d'un journal, j'ai bien dit d'un journal. Ce qui ne veut pas dire, en effet, qu'à partir du mois de janvier, par exemple, on va manquer de format, là aussi, en queue de journal, à la fin du journal, qui vont s'allonger au fur et à mesure. 12, 14 minutes...
Alléluia.
Pour cette partie-là.
On n'obtiendra jamais 20 minutes. Non, mais c'est extrêmement intéressant. Vous avez été le patron de l'info de France Télévisions. Vous avez été le patron de France 2. Vous avez orchestré des paroles et des actes qui aujourd'hui s'appellent Élysée 2022. Vous avez orchestré ces grandes émissions en direct où on interroge un candidat pendant 2 heures, parfois 2 heures et demie. On sent très bien que dans les choix que vous faites, vous semblez dire en creux que ces formats-là sont complètement démonétisés aujourd'hui.
Ah, je pense que le format politique en prime de 2 heures régulier, à mon avis, en effet, demande à être revisité. Je vois bien comment les téléspectateurs réagissent. Vous voyez bien comment les téléspectateurs réagissent. Donc, moi, je vous rappelle juste que quand on fait 6 minutes d'interview ou 7 minutes d'interview, parce que ça va parfois jusqu'à 7 quand même,
dingue.
C'est quand même 5, 6 millions, 7 millions de téléspectateurs qui sont touchés.
Ouais.
Je préfère ça, honnêtement, que d'avoir un peu moins de téléspectateurs, beaucoup moins de téléspectateurs en me disant j'ai fait 2 heures. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que sur TF1, il n'y aura pas de prime. Bien entendu, s'il y a possibilité d'en faire un événement, il y aura un prime. Là aussi, en 2017... TF1, avant le premier tour, avait organisé le premier débat de l'histoire de la Ve République, le fameux débat à 5. Tout à fait, j'allais dire, normal. Et bien entendu, on ouvrira notre antenne à ce type d'événement dès lors que c'est possible. Mais l'émission régulière de 2 heures, toutes les semaines, tous les 15 jours, je pense qu'elle a daté. Oui, je pense.
C'est ça, terminé. Éric Zemmour,
En tout cas pour cette élection.
Meeting à Villepinte, en direct sur LCI.
15 000 Français qui ont bravé le politiquement correct, les menaces de l'extrême gauche et la haine des médias.
Des images fournies par le candidat Thierry Tullier, des images fournies par le candidat, retransmises sur LCI, votre chaîne d'info, retransmises sur BFM TV, retransmises sur CNews. Tout un tas d'incidents qui ont eu lieu au cours de ce meeting et vos caméras n'y étaient pas en cours de diffusion.
Ah, ça a été traité sur notre antenne, notamment par nos équipes qui étaient sur place. Alors, vous décrivez un phénomène qui n'est pas propre, pour le coup, à Éric Zemmour.
Non. Et qui n'est pas propre à LCI.
De toute façon, puisque les images sont fournies désormais, que ce soit l'ELR, l'AREM. Peut-être qu'il est utile que je vous dise qu'on a diffusé le discours, le meeting de Jean-Luc Mélenchon avant le meeting d'Éric Zemmour. Et c'était la même chose, image fournie. Donc ce qui s'est passé depuis maintenant, je crois que ça fait 2 élections, donc ça fait quasiment une dizaine d'années que ça se produit comme ça, il y a un synthé qui précise que ces images sont fournies par les équipes du candidat.
C'est une défaite.
C'est quand même la moindre des choses. Ah, je considère que c'est un recul par rapport aux premières élections présidentielles que j'ai connues quand j'étais reporter, où ça n'existait pas. Ce qui est important,
Un recul, mais pourquoi est-ce que c'est une fatalité?
Bah, c'est pas une fatalité. D'abord parce qu'on continue à envoyer des équipes. Vous me parlez des incidents, on les a traités. On a même été un peu secoués, nous aussi, Paul Laroutourou en l'occurrence. Donc, ça a été traité dans nos journaux et ça a été traité sur LCI. Donc, on continue à faire notre métier de journaliste. Mais il nous semble important quand même que la parole des candidats, j'insiste là-dessus, puisse être relayée, même en direct pour le coup, sur nos antennes, à partir du moment où, là pour le coup, on respecte l'équilibre du temps de parole. Donc, ce qui serait pas normal, c'est de privilégier un candidat plutôt qu'un autre.
On est entièrement d'accord. Moi, je vous parle du fait de reprendre un signal avec des images qui ne sont pas les vôtres.
À partir du moment où vous êtes transparent avec votre public et que le public sait que c'est une réalisation qui n'est pas faite par vous, je considère qu'on a fait le travail. Ce qui est important, c'est que sur place, en étant déployé sur place, on puisse nous-mêmes faire le compte-rendu du climat, de l'ambiance, des propos, voire des coulisses.
Alors, c'est ce qu'est un futur débat Marine Le Pen, Éric Zemmour. Est-ce qu'il aura lieu en janvier? Est-ce qu'il aura lieu en février? Tout ça est encore extrêmement flou. Ils ont l'air de dire l'un et l'autre qu'ils voudraient s'émanciper des cadres des plateaux télé. Là aussi, c'est extrêmement flou. Peut-être l'organiser eux-mêmes. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils organisent ça eux-mêmes dans un théâtre, dans une salle de spectacle, dans une salle de meeting, et que là aussi ils vous vendent le signal?
Je pense qu'ils
vous
le
fournissent.
Je pense qu'on peut tout imaginer aujourd'hui.
Ouais.
La tentation des leaders politiques de notre pays est aujourd'hui de tenter, en tout cas, de se passer des équipes de journalistes.
Mais c'est très grave.
C'est une réalité. Mais bien sûr que c'est très grave. Et c'est pour ça qu'il faut se bagarrer. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal quand on parle, par exemple, de l'interview de ce soir, d'Emmanuel Macron, d'actes de propagande, parce que c'est juste oublié qu'il y a des journalistes qui posent des questions contradictoires.
Je ne parle pas de vous. Je ne parle pas d'actes de propagande.
Je vous parle de ce que j'ai lu par ailleurs, pas vous. Je sais bien. Mais c'est-à-dire qu'assez rapidement, même quand il y a des journalistes, on a tendance à considérer que de toute façon, il y a pas de contradictoire, il y a pas de contradiction, on fait pas notre métier. Et moi, je défends l'ensemble de cette profession. Je considère que précisément dans ces temps très troublés, avec beaucoup de tensions, les journalistes ont une fonction très importante. Et donc, la question, la véritable question, qui n'est pas à trancher aujourd'hui, c'est en effet quand un phénomène ou un événement est organisé hors de tout, j'allais dire, accompagnement éditorial, faut-il en rendre compte ?
Ouais.
Voilà. Quand on ne peut pas accéder à la salle, quand on ne peut pas accéder, j'allais dire, à ceux qui l'organisent, la question mérite d'être posée. Mais en même temps, c'est une question de débat démocratique. Donc, très difficile à trancher, et je pense qu'elle nous sera posée à nous tous, à un moment donné, au cours de cette campagne, parce qu'on voit bien que l'objectif, c'est quand même d'être le moins possible confronté au questionnement des journalistes.
Éric Zemmour, qui sort absolument furieux de sa première interview chez Gilles Boulot, au JT de 20h, qui l'insulte, a-t-on lu en coulisses, qui estime que les questions ne sont pas posées, les questions de fond ne sont pas posées.
Bah, écoutez, voilà, c'est une autre illustration de ce que je vous dis. Aujourd'hui, j'allais dire, tendre les relations avec les journalistes peut, aux yeux de certains, les rendre populaires. Compte tenu, j'allais dire, de l'image que nous avons, nous, journalistes, auprès des Français. Bon, je ne pense pas qu'elle soit, cette image, si dégradée. Compte tenu, j'allais dire, de l'importance des rendez-vous d'information, que ce soit sur votre radio ou sur notre chaîne TF1. Donc, mais pour autant, il y a un côté très, très tendu aujourd'hui dans ces relations. Donc, la réponse, elle est simple. Nous posons, faites confiance à l'information de TF1 pour poser toutes les questions, d'être rigoureuse et d'être professionnelle. C'est aussi pour ça que je pense que les Français nous font confiance. Donc oui, on a posé les questions qui nous semblaient nécessaires de poser pour le premier 20h d'Éric Zemmour. Comme je vous l'ai indiqué, il sera un temps venu de parler des programmes, quand il y en aura d'ailleurs, au passage. Et à ce moment-là, il sera interrogé et il est évidemment réinvité sur le plateau pour parler de son programme, dans un format spécifique.
Dimanche dernier, Thierry Tullier, c'est un format qui dépend de vous. Vous avez diffusé dans le magazine C'est à 8 une enquête sur Patrick Poivre d'Arvor, les accusations d'agression sexuelle et même accusations de viol. Il y a d'ailleurs un nouveau témoignage qui a eu lieu sur votre antenne, deux nouveaux témoignages sur votre antenne dimanche après-midi. Pourquoi ne pas avoir déclenché d'enquête interne à la rédaction de TF1, Mediapart s'est posé la question.
Alors,
notamment,
l'enquête interne, comme je dis souvent, elle a un objectif.
Oui.
Elle est de révéler les responsabilités éventuelles d'une direction ou de responsables ou de journalistes qui auraient commis ou qui auraient su ces faits. Il se trouve que, comme vous le savez sans doute, la direction de TF1 aujourd'hui est totalement renouvelée.
Oui. Que ceux qui étaient que vous n'étiez pas parmi
ceux qui
étaient
à l'époque, mais pas que moi, beaucoup. Donc ceux qui étaient à l'époque ne sont plus là, y compris d'ailleurs le président de TF1 et le vice-président de TF1, Patrick Lelay et Étienne Moujotte, qui sont décédés. Donc mener une enquête pour ensuite dire quoi ? Dire il y a des responsables et on les sanctionne. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt dans ce sens-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on est inactif, bien au contraire. On a, et j'ai organisé au sein de la rédaction de TF1, de multiples rencontres avec des journalistes par service. On a rappelé tous les dispositifs qui permettent, parce que ce qui compte au fond, et ce qui me frappe dans cet épisode, indépendamment des faits que je ne veux pas juger ici, à la place de la justice, ce qui me frappe, c'est la parole qui n'est pas libre, qui n'est pas libérée. C'est que des personnes manifestement entre ces 15 dernières années n'ont pas pu, n'ont pas voulu, n'ont pas su parler, témoigner. Aujourd'hui, c'est le cas, j'allais dire, tant mieux. Tant mieux, et franchement, quand on lit tous ces témoignages, on a une vingtaine, une trentaine, je crois, on est assez, j'allais dire, frappé, presque choqué par le fait que tout ça ait pu, en effet, ne pas être dit plus tôt.
Et c'est la une de Libération.
Et pour moi,
ce matin,
c'est essentiel que s'il se passe des choses, je l'ai dit à TF1, s'il y a des propos, des actes, qui sont déplacés. Il faut que les personnes qui sont concernées ou victimes puissent s'exprimer et trouver une écoute. Et je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie d'aller voir le directeur de l'info. Je comprends tout à fait. Mais il y a médecin.
Donc ce n'est plus un sujet PPDA à TF1.
Bah écoutez, quand on fait un reportage proposé par 7 à 8 et qu'on accepte évidemment de le diffuser, ce qui me paraît normal parce que c'est un fait d'actualité, c'est un fait de société, alors je considère que TF1 a fait le boulot.
Merci.
Le travail.
Merci beaucoup Thierry Tullier.